Bonjour, il est 11h03, on va commencer. La table ronde qui commence tout de suite, parce que vous êtes tellement plus nombreux que ce qu'on imaginait qu'on part du principe que vous êtes trompés, donc on va vous redire ce que c'est, et puis si vraiment c'est ça que vous voulez, vous l'aurez. Je suis encore trop loin. Je vais me le caler entre les molaires, tu me diras si ça va. Donc, nous allons parler ici d'enseigner et transmettre un jeu de rôle. En l'occurrence, beaucoup de nos réflexions rôlistes sont sur la manière d'utiliser le jeu, et nous avons tendance à oublier que le jeu de rôle est ce qu'on appelle un médium indirect, c'est-à-dire qu'il faut d'abord expliquer à quelqu'un, la MJ, avant qu'elle-même puisse l'expliquer à d'autres, les joueurs. Et dans cette transmission, beaucoup de choses peuvent être perdues ou redéveloppées. Ça peut bien ou mal se passer. Et donc avec nos chers intervenants, nous allons surtout discuter de ça. Alors en l'occurrence, ladies first.
Si vous... Ça fonctionne ? Ça fonctionne, super. Bah, bonjour à tous, je m'appelle Noémie Rock et je ne suis pas du tout dans le monde du jeu, dans le sens où je ne suis pas un acteur majeur du jeu, je n'écris pas, je ne crée pas. Je suis en fait étudiante en sociologie. J'ai à mon actif un master qui traitait du jeu de rôle virtuel, du jeu de rôle dématérialisé. Et là, j'entame un deuxième master à Paris 13 en sciences du jeu, où je vais en fait mettre premier pied à la longue et fastueuse échelle qu'est la thèse, pour parler des vidéos de jeux de rôle diffusées sur YouTube. Donc là, vous avez tous des images qui vous popent en mémoire de votre expérience de spectateur YouTube. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une approche qui est plus centrée sur les communautés de pratique et les usages. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Sarah Newton, je suis anglaise, alors excusez-moi en avance pour mon français. Oui, je suis écrivain de jeux de rôle et j'ai beaucoup d'expérience en mise en page des jeux de rôle pour essayer transmettre les structures, pas seulement des règles, mais de l'univers, et aussi une question qui est très importante dans les jeux de rôle, qui est souvent ignorée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on fait dans un jeu de rôle. Il y a souvent les jeux de rôle qui sont publiés, qui sont édités avec les univers très profonds et les règles très compliquées, mais forcément, c'est très difficile à comprendre qu'est-ce qu'on fait actuellement autour de la table quand on fait ce jeu. Et c'est ça que m'intéresse beaucoup quand j'écris un jeu de rôle.
Alors, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Vivien Féasson. Je suis traducteur de jeux de rôle, auteur aussi de jeux de rôle, puisque j'ai écrit Les Errants d'Oukio, Perdus sous la pluie et Libreté. Donc c'est des questions, du coup la question effectivement de la transmission, de toute façon à partir du moment où on écrit un jeu, c'est forcément une question qu'on va se poser. Quelle modalité on va utiliser pour transmettre ça, comment expliquer les choses, à quel public on se destine, sachant que je me suis un peu intéressé de mon côté à justement essayer d'ouvrir en tout cas mes jeux le maximum. Alors est-ce que j'ai réussi ou pas, ça c'est pas à moi d'y répondre, mais en tout cas il y avait cette problématique là, c'est-à-dire de rendre le jeu le plus clair possible pour qu'il puisse être pris en main par des personnes qui ne viendraient pas, on va dire, du sérail traditionnel du jeu de rôle. Et voilà, je suis aussi de temps en temps maintenant, et plus régulièrement à une certaine époque, intervenant sur le podcast de La Cellule. Et voilà, je suis aussi universitaire, mais pour le coup, je ne touche pas du tout au jeu de rôle dans ce cadre-là. Donc quand tu parles de thèse, la petite douleur, je la sens bien.
Ok, donc moi c'est Julien Poire, je suis avant tout podcasteur dans un podcast qui s'appelle Les Voix d'Altaride, dans lequel on s'intéresse justement à la transmission de la pratique rôliste vers le public rôliste et essayer d'étudier un certain nombre de sujets qui vont de considérations théoriques à des considérations très pratiques, des conseils. À ce propos-là, j'ai participé récemment à un ouvrage qui s'appelle « Jouer des parties de jeux de rôle » par Lapin Marteau, dans lequel j'ai fait un article. Et l'objectif de la collection à laquelle appartient cet ouvrage, c'est justement de réussir à transmettre hors jeu, hors un jeu formalisé, des pratiques, des conseils, des méthodes qu'on peut appliquer dans les différentes parties. J'écris aussi un peu de jeux de rôle en parallèle. Voilà. Et oui, et au niveau métier, je suis un petit peu la caution enseignante avec Vivien.
Moi, je m'appelle Sébastien Legfino et je suis un petit peu auteur de jeux de rôle, un petit peu auteur de jeux en général. J'ai surtout pratiqué mon métier qui est au départ le graphisme pour le jeu de rôle. Et donc je me suis pas mal préoccupé de la manière dont le visuel, que ce soit le graphisme, la signalétique, les icônes, etc., pouvait servir à transmettre du jeu. Mais aujourd'hui, je serai surtout l'animateur, donc je vais vous poser plein de questions. À commencer par, lorsqu'on réfléchit à la transmission d'un jeu de rôle, à quel moment de cette transmission on se situe et avec quels objectifs ? Je vais préciser un peu cette question hyper vague par est-ce qu'on pense comme un commercial qui essaye de vendre son jeu de rôle en sachant qu'il a besoin d'en transmettre les éléments essentiels pour que ce jeu puisse trouver un public ? Est-ce qu'on y pense comme un enseignant qui a besoin d'expliquer le contenu de ce jeu de rôle pour le rendre utilisable ? Est-ce qu'éventuellement on pense comme un auteur qui a envie de transmettre une certaine émotion et une certaine vision du monde à travers son jeu ? Amusez-vous.
Ok, bah je vais commencer. Alors, moi, je sais que... Alors, évidemment, toutes ces questions-là, on ne se les pose pas de façon chronologique, séquencée. D'abord ça, puis cette étape-là, puis la suivante. Désolé. Du coup, on se les pose toutes à plusieurs moments, on revient dessus, etc. Elles se mélangent un peu dans la tête et il y a un moment où ça sort quelque chose. Et je sais que dans le cadre notamment des... je vais prendre l'exemple de Libreté, qui est le dernier en date et dont je me souviens bien, et celui qui, on va dire, avait le plus d'ambition en termes de public. Quand on commence déjà à sortir du cadre des maisons d'édition, on va dire, importantes, type Black Book Edition ou Sans Détour, quand on commence à sortir du cadre aussi du jeu de rôle mainstream, c'est-à-dire en gros médiéval fantastique, on va dire, pour caricaturer, on voit bien qu'on ne va pas pouvoir se contenter du public rôliste. C'est-à-dire que globalement, un jeu, on va dire, qui sort de ces marches-là, il peut espérer faire entre 300 et 500 ventes à peu près en moyenne. Autant dire que si on touche l'équivalent de, je sais pas, 1 euro ou 2 euros par jeu, on va pas faire fortune. Et quand on voit qu'un jeu, ça prend à peu près au moins un an, voire deux ans de travail, même si on parle pas d'en vivre, on va dire juste, ne serait-ce que de pouvoir justifier le fait d'en écrire un suivant derrière, au moins auprès de sa famille ou quelque chose comme ça, et dire oui, bon, il y a quand même quelque chose, je ramène quand même quelque chose à un moment ou à un autre, et pas juste mon petit plaisir égoïste d'auteur. Bon, il faut qu'on se dise, voilà, il faut que je vise potentiellement un autre public, et donc il faut que j'ouvre un petit peu ces portes-là. Et pour ça, donc voilà, il y a cette question-là qui se pose dans l'écriture, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on va se dire, est-ce que je mets par exemple un paragraphe, qu'est-ce que le jeu de rôle ? Qui est, on va dire, un peu la tarte à la crème de l'écriture de jeu, parce que beaucoup de jeux ont fait ça. On a, ouais, tu veux...
Et j'allais te demander, est-ce que tu as besoin d'expliquer ce qu'est le jeu de rôle ou ce qu'est ton jeu de rôle ?
Alors, ça, je pense, à mon avis, c'est une question qui est hyper intéressante et qui serait dommage d'expédier juste par moi maintenant. Parce que justement, il y a des évolutions maintenant.
Ça s'appelle botter en touche, ça.
Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, à une époque, en gros, la plupart des jeux mettaient en avant l'appel de l'aventure. Ils disaient « venez vivre de grandes aventures », etc. C'était comme ça qu'on attirait les gens. Et on se contentait de ça quasiment. On disait « incarner des héros et des aventuriers ». Et puis voilà, point, c'était fini. Globalement, on s'imaginait que ça allait être un petit peu comme... comment dire, il y a des jeux notamment qui mettent en avant le principe de ce qu'ils appellent en anglais « make-believe », où... c'était, alors dans Traveler, j'ai noté Let's Pretend, c'est ça. Donc le côté, vous vous souvenez quand vous étiez enfant et que vous disiez, et si on serait des pirates ou des machins ? Alors à une époque, je pense qu'ils mettaient plus l'image, si on serait des Indiens, etc. Mais bon, maintenant, c'est peut-être un peu moins. Disons, politiquement, ça marche moins bien. Mais voilà, il y a l'idée, en tout cas, de. Le jeu de rôle, vous faites ça depuis que vous êtes tout petit. Et du coup, en fait, tout ce que vous avez à faire, il y a juste des règles maintenant en plus, parce qu'on est des adultes et qu'on a besoin de se mettre un petit peu d'accord. Mais sinon, c'est pareil. Donc, on n'a pas besoin de vous expliquer. Vous avez juste à vous mettre dans l'ambiance. Vous vous souvenez de ça, bah, go, c'est parti. Après, au final, le meneur de jeu se débrouillera de toute façon pour tout ce qui décolle un petit peu, quoi.
Ben justement, tâchons de détendre la réponse avec vos autres réponses sur expliquer le jeu de rôle ou expliquer son jeu de rôle.
Oui, personnellement, maintenant, j'ai... Je considère la question du point de vue commercial plutôt, parce qu'on a une quantité de pages dans un livre qui est assez limitée. Il faut payer pour chaque page. Alors, normalement, pour expliquer qu'est-ce que c'est un jeu de rôle, je ne le fais pas dans mes bouquins. Nous avons maintenant Internet, heureusement. Il y a partout, il y a les YouTube et les sites Internet complètement dédiés à l'explication de qu'est-ce que c'est un jeu de rôle. Alors normalement, je donne un petit boîte de texte qui donne une liste de liens utiles pour, si vous êtes vraiment venu ici sans sachant qu'est-ce que c'est un jeu de rôle, vous pouvez vous renseigner ici pour savoir. Mais par contre, pour qu'est-ce que c'est mon jeu de rôle, c'est quelque chose très... pour moi, c'est intéressant parce que j'aime beaucoup créer les univers. En principe, je suis créatrice des mondes, créatrice des histoires, plutôt que créatrice des systèmes de jeux de règles, des règles de jeu et tout ça. Alors, c'est la chose la plus importante pour moi, c'est de transmettre plus vite que possible mon concept de ce jeu que vous avez entre vos mains maintenant. Et je dédie toujours le premier chapitre en quelques pages, juste une page, peut-être deux pages, une sommaire très efficace, très ciblée de transmettre l'univers et les sortes de jeux, les sortes d'expériences que vous aurez en le jouant. Et juste pour élargir un peu la réponse, j'ai aussi toujours la tendance de faire un deuxième chapitre qui donne les bases des règles aussi. Alors, pour moi, je veux que quelqu'un peut lire un de mes livres et après avoir lu peut-être une dizaine, une quinzaine de pages, et souvent c'est dans un bouquin assez grand, de 200, 300, même 400 pages, après une dizaine, une quinzaine de pages, vous saurez déjà de quoi s'agit-il au niveau de gameplay, du sujet, de l'univers, et aussi des concepts de base des règles. Alors c'est quelque chose de très important pour moi de pouvoir transmettre tout ça dans une info burst très, très concentrée dans les premières pages que vous allez lire.
Ouais. Je vais peut-être te laisser intervenir avant, puisque comme je ne suis pas concernée par l'aspect création...
Ça marche. Écoute, moi dans ma démarche, je ne suis pas du tout dans une démarche commerciale quand j'écris un jeu. Parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse d'abord, parce que je n'ai pas d'enjeu professionnel à ce niveau-là. Voilà. Parce que j'ai décidé de faire du jeu de rôle sans vouloir en faire un métier qui me rapporte de l'argent. Je ne vais pas me faire engueuler à la maison si je passe trop de temps, etc. Donc je n'ai pas ces problèmes-là. À partir de là, ce qui m'intéresse, c'est de réussir à permettre aux gens, quel que soit le public, de jouer au jeu que je propose. Quand on fait du jeu de rôle, il y a un forum sur lequel je participe qui s'appelle Les Courants Alternatifs, sur lequel il y a beaucoup, beaucoup de réflexions, qui est un forum qui est très intéressant, sur lequel en ce moment, il y a une discussion sur transmettre le jeu de rôle. Et il y a Valentin T, qui est un des acteurs du forum, qui est en train de développer toute une idée, toute une théorie autour de ça. Et notamment, il parle de la métaphore de l'iceberg par rapport au jeu de rôle, en disant qu'on a une partie des règles qui sont évidentes, qui sont explicites, qui sont dans le bouquin de jeu, et une partie des règles qui sont implicites, qui est la culture qu'on va se trimballer. Donc à partir de là, comment on fait ? Est-ce qu'on considère que les gens ont une culture de ce que c'est que le jeu ou pas ? Souvent, la partie expliquer ce que c'est qu'un jeu de rôle, c'était tenter d'expliquer cette quantité de règles implicites qu'on traîne toujours quand on a joué au jeu de rôle avec d'autres gens. En pratique, les gens qui ont commencé le jeu de rôle sans se le faire expliquer par quelqu'un sont plutôt rares. Ils existent, mais ils sont plutôt rares. D'accord ? Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'expliquer le jeu que je suis en train de présenter dans le jeu que j'ai publié qui s'appelle De mauvais rêves, c'est exactement ce que j'ai fait. Et j'ai pris l'axe de choisir d'exposer au joueur ce que j'attends de lui de façon le plus claire possible. Il n'y a pas de meneur, mais s'il y avait eu un meneur de jeu, j'aurais expliqué au meneur de jeu exactement ce qu'on attend de lui. C'est quelque chose que j'ai tiré de jeux comme Apocalypse World et ce genre de courant-là, qui vont essayer de clarifier au mieux ce qu'on attend des gens comme comportement pendant la partie, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils doivent faire pour que ça fonctionne. Cependant, l'écrit, et c'est là que je vais probablement te repasser la parole, l'écrit ne suffit pas toujours. On ne peut pas être partout pour faire des initiations. Donc moi, j'ai pris le parti, Vivien a participé à l'expérience, de faire une vidéo de à peu près une heure dans laquelle on voit le début d'une partie et l'ensemble des choses qu'on attend des joueurs à ce niveau-là. Et du coup, on nous voit jouer avec des petites pauses dans lesquelles on explique les règles, on explique comment ça fonctionne. Et je pense pour moi que le bouquin fonctionne très bien avec cette vidéo-là. Voilà.
C'est vraiment super parce que du coup, on va pouvoir se compléter. Effectivement, j'allais parler d'un autre médiateur qui n'est pas encore pris en compte au moment de la création, mais c'est du coup les acteurs vidéo. Donc, ça peut être une volonté du créateur d'expliciter ou de l'éditeur de rendre son jeu plus accessible, voilà, en rendant explicite ce qui est implicite. Mais ça peut aussi être des joueurs qui décident de sortir de l'ombre et de montrer leur pratique domestique, leur pratique discrète, qu'on ne voit pas, et de la montrer au plus grand nombre. Donc c'est le cas des vidéos de jeux de rôle, je défends ma chapelle, qui mettent en lumière cette culture dont on parlait, la culture ludique, la culture commune que chaque joueur de jeu de rôle est supposé avoir lorsqu'il joue. C'est surtout quand cette culture fait défaut qu'on se rend compte qu'elle existe. Quand par exemple on a un nouveau joueur à notre table qui va incarner par exemple un mage en partie d'initiation et qui va aller au corps à corps avec son mage. Voilà, tout joueur qui a l'habitude de jouer se dit non, on va pas envoyer un mage au corps à corps, c'est pas ce qui nous vient en premier à l'esprit, ça va être d'envoyer des boules de feu à distance. Donc effectivement, quand elle fait défaut, on voit qu'elle est pas là. Comment est-ce qu'on transmet une chose qui est diffuse, qui est subjective, puisqu'elle dépend de nos carrières de joueurs? Donc effectivement, en termes de création, c'est super compliqué. Et je vous envie pas là-dessus.
Et j'ajouterais un truc, c'est que... Je vais pas parler à la place de Valentin. Si ça vous intéresse, vous irez chercher le forum Courant Alternatif. C'est en train de discuter là-dessus, donc de développer l'idée. Mais il parle de plusieurs cultures rôlistes, en fait, de cultures au pluriel, et donc de la difficulté de formaliser un jeu pour que ça puisse être utilisé par des gens qui ont des cultures très différentes. Et Vivien, je pense que toi, c'est un truc que tu as dû voir assez souvent. Sarah aussi, on parlait de Fate que tu as utilisé. Il y a des cultures très différentes quand on va jouer sur des jeux type Donjons et Dragons, Appel de Cthulhu, etc., des jeux qui ont une bonne bouteille, dont on sait à peu près ce qu'on s'attend à voir à l'intérieur, et des jeux plus nouveaux, je ne vais pas dire plus innovants, dans certains cas oui, dans certains cas non, mais c'est un peu trop jugeant pour que je veuille utiliser le terme, disons des jeux plus nouveaux, dans lesquels on va aborder le jeu de rôle d'une manière différente. Et il faut toujours essayer de faire le raccord. Et moi, j'ai souvent remarqué que ces jeux de rôle un peu différents avec des joueurs et des joueuses qui n'avaient jamais joué, ça passe sans problème. Il n'y a pas d'attente particulière en dehors du contenu de l'histoire. Donc, on y va, on apprend les règles, on joue, etc. Des rôlistes plus anciens avaient plus de mal à désapprendre en quelque sorte les réflexes qu'ils avaient acquis lors des parties précédentes, des 10 ans de jeu d'avant, etc., pour aborder ces nouvelles méthodes. Dans certains cas, ils aiment ça, ça enrichit leur pratique. Dans certains cas, ils n'aiment pas ça, il y a un rejet immédiat, quoi.
Puisqu'on parle de culture et de culture du jeu, quels sont vos points de vue chacun sur ce qu'on appelle les player skills en anglais, pour lesquels on n'a pas vraiment de terme en français à part les compétences de joueur requises par chacun de vos jeux, et la manière dont vous pouvez non seulement les formuler pour que les gens sachent ce qu'on attend d'eux dans le jeu, et plus précisément dans vos jeux à vous, comment ils vont interagir avec le jeu lui-même. Puisque j'ai l'impression d'être très abstrait, je vais donner quelques exemples de ce dont je parle. Si on utilise un jeu d'enquête, et j'entends un jeu d'enquête qui demande que les joueurs participent à l'enquête, ils vont devoir déployer un petit peu de méthodologie, être capable d'identifier un indice, de vérifier cet indice et de commencer à produire des hypothèses qui permettent d'aboutir à une théorie de ce qui s'est passé, expliquant l'ensemble des indices qu'on a trouvés. Ça, c'est les joueurs qui vont le faire, parce que les personnages, eux, n'ont pas de vrai cerveau et ne peuvent pas produire ce genre de réflexion. Donc, à partir de là, plein de jeux différents et plein de types de jeux différents vont demander des compétences différentes aux joueurs. Et lorsqu'on écrit un jeu de rôle, parce que le jeu de rôle est quelque chose de très protéiforme et très vaste, on ne sait pas nécessairement, nous, auteurs, quel genre de compétences on va réclamer aux joueurs avant d'avoir largement entamé notre écriture, voire parfois fini le bouquin, et l'avoir suffisamment testé pour s'apercevoir que ça demande telle ou telle compétence, tel ou tel réflexe de la part des joueurs. Donc ça m'intéresse, avec des auteurs sur des projets très différents, de savoir comment est-ce que vous abordez ce truc-là.
Pour moi, je crois qu'on touche ici à une question très fondamentale au jeu de rôle, la grande différence entre un jeu de rôle et une œuvre de fiction, par exemple. Quand on écrit un roman, une nouvelle, on essaie d'être très original, de transmettre les idées qui sont nouvelles, qui sont différentes, qui sont parfois choquantes ou difficiles à comprendre au lecteur. Et c'est ça qu'on cherche quand on lit un roman de science-fiction, par exemple. On veut cette sensation d'émerveillement, d'être un peu perdu dans les idées vastes et cosmiques. Par contre, avec un jeu de rôle, on ne veut pas exactement ça. On ne veut pas être perdu dans le jeu. On veut une sensation d'être un peu chez soi. Il y a une familiarité qu'on peut accepter et faire le sien pendant qu'on lit, et en particulièrement pendant qu'on joue. Quand on joue le jeu. Et ça, c'est ça qui est, pour moi, c'est très important de se permettre aux joueurs de faire cet univers le sien, absolument. C'est transmettre on parle effectivement des paradigmes du jeu et de l'univers et des règles. Et moi, personnellement, je ne veux pas que quelqu'un ait du mal à comprendre de quoi s'agit-il. Il faut d'abord donner une liste, par exemple, très simple, des paradigmes technologiques, sociaux, que les joueurs peuvent lire et facilement improviser au-dessus. Et pour moi, c'est le but.
Est-ce que tu considères que cette capacité à appréhender l'univers et à se l'approprier est une compétence de joueur ?
Ça appartient vraiment aux règles qu'on utilise. Et moi, c'est une tendance qu'on découvre de plus en plus ces derniers 15 ans, par exemple, depuis l'arrivée des jeux comme HeroQuest, les story games, la Forge, par exemple, où on encourage tout le monde d'approprier l'univers et les jeux pour le sien. Et c'est pas pour tout le monde. Souvent, on veut, quand on joue, d'être le récipient d'une histoire que raconte le meneur. Alors, c'est une différence très importante et très fondamentale.
Ok. Moi, juste avant d'aborder le mien, en fait, j'ai l'impression, globalement, pendant une certaine période, jusqu'à, on va dire, fin des années 90, on a eu l'impression d'avoir cerné à peu près le jeu de rôle, qui était assez proche de ce que tu as décrit, c'est-à-dire on demandait comme compétence aux joueurs globalement d'être malin, de mener une enquête, essentiellement. Tous les scénarios quasiment avaient une enquête. La plupart, en tout cas les bons scénarios étaient considérés comme ceux ayant une enquête, parce que sinon c'était juste une série de caractéristiques. On demandait aux joueurs de maîtriser le système à peu près, et globalement de maîtriser progressivement l'univers au fur et à mesure. On leur demandait généralement pas ça dès le début, c'était plutôt aux meneurs de jeu au fur et à mesure d'augmenter leurs compétences, on va dire. D'ailleurs, juste, ouais, j'ai oublié, c'est quelque chose, en fait, finalement, c'est pas uniquement lié au jeu de rôle, parce qu'on retrouve ça, en fait, notamment, il y a Umberto Eco, qui parle de ça pour le roman, qui parle, alors, je vais pas dire trop de bêtises, parce que je me souviens plus exactement, mais qui parle d'encyclopédie, notamment, c'est-à-dire l'ensemble des savoirs du lecteur que l'écrivain, en fait, doit connaître, en fait, ou doit présupposer pour pouvoir les mobiliser, en fait. On retrouve ça, pour citer un exemple caricatural, dans tous les successeurs de Tolkien, qui se contentent de dire, il y a un an. Vous voyez ce que c'est, vous avez lu Tolkien, je ne vais pas m'embêter à le décrire. Voilà, donc il y avait un nain, et puis il y avait un elfe, et voilà. Donc,
si tu peux me laisser juste placer une brève parenthèse explicative, il y a une notion qu'on appelle le non-dit de la fiction, qui est que dans une fiction quelconque, quelle que soit sa forme, quel que soit le support, on ne va vous raconter que ce qui est spécifique à cette fiction. Si on vous dit qu'il y a un mur, on part du principe que vous savez ce que c'est qu'un mur, comment fonctionne un mur, et on ne va pas vous expliquer les murs. Et donc, dans Tolkien, quand on vous dit qu'il y a une colline, on ne vous explique pas la géologie des collines. On vous explique pourquoi cette colline est particulière. Tout ce qui ne vous est pas expliqué, mais qui est présupposé par les auteurs comme connu, est au passage censé fonctionner comme d'habitude. Si ça ne fonctionne pas comme d'habitude, si les dragons ne crachent pas de feu et que les avions ne peuvent pas voler au-delà d'une certaine altitude, on vous expliquera. Il y a autant en jeu de rôle que dans les romans ou dans les films, un très large présupposé non dit de « ça vous savez ». Et en réalité, assez souvent, spécialement en jeu de rôle, quand on commence à se préoccuper de qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce qui est possible, quel est le champ du possible, on s'aperçoit que sur des tas de domaines, on n'est pas d'accord sur ce qu'est la réalité.
Globalement, oui, c'est ça. Il parle de machine paresseuse, je crois, pour parler du texte, c'est-à-dire que voilà, il ne vit que par l'intermédiaire de la lecture, quoi, en fait. Pour revenir sur le jeu de rôle, donc en fait, moi, on va dire par exemple, je vais prendre Liberté encore parce que c'est celui que j'ai le plus en tête, mais qui s'inscrit complètement dans la mouvance, on va dire, de Apocalypse World et des jeux comme ça, où l'idée est moins maintenant. Alors, il y a des règles à comprendre relativement, mais globalement. Tout l'accent est vraiment mis sur le joueur doit incarner son personnage et se soucier au minimum des règles. Quand les règles devront intervenir, un meneur de jeu interviendra pour lui dire fais un jet à ce moment-là. Le reste, c'est voilà, tu as ton personnage. Alors, il y a quand même quelques éléments de règles, mais l'essentiel du jeu, c'est vraiment mets-toi dans la peau de ton personnage au maximum. Après, il y a des jeux comme donc le mien, mais aussi par exemple Monster Hearts, qui commencent à introduire une dimension plus largement, on pourrait dire joueurs contre joueurs. Quelque part, il y a vraiment l'idée que les joueurs sont là aussi. Bon, dans Monster Heart, on joue des adolescents, dans Liberté, on joue des enfants. Et à un moment ou à un autre, ils vont se mettre sur la tronche régulièrement. Et donc, une compétence, on va dire, que ça implique, c'est la capacité à la fois à se mettre sur la tronche entre joueurs, tout en étant capable de garder une certaine distance vis-à-vis de ça, et donc, quelque part, un certain plaisir, sans que les joueurs eux-mêmes, finalement, se détestent entre eux, quoi.
Nouvelle parenthèse explicative, à se mettre sur la tronche entre persos.
Oui, pardon, oui, c'est pour ça que je suis revenu sur joueurs. Bah, quelque part, il y a une mise sur. Il y a quand même une opposition entre joueurs, malgré tout. Mais en sachant qu'ensuite, ouais. Voilà, elle est à moitié simulée. Et puis, à un moment, voilà, comme dans un débat, les gens peuvent se prendre la tête un peu et ensuite se serrer la main et dire oh, tu m'as bien eu là-dessus.
Et surtout, entre joueurs, c'est du jeu.
Voilà.
Alors que le nain déteste vraiment l'elfe.
Oui, voilà, c'est ça. Et voilà, c'est y a par exemple cette compétence-là, à mon avis, qui serait à mettre en œuvre. Et c'est vrai que quelque part, quand j'avais, alors quand, pour le coup, pour prendre l'exemple précédent, c'est-à-dire Perdu sous la pluie, qui était un jeu, on va dire, avec narration partagée, plusieurs meneurs de jeu contre un joueur en un sens, etc. Donc beaucoup de complexité, on va dire, à ce niveau-là. J'ai un peu regretté parfois de pas avoir plus explicité, on va dire, le dispositif de jeu. Après coup, parce que je me rends compte que c'est des choses qui ne tombent pas sous le sens, qui ne vont pas dans le sens de la culture rôliste dont on a parlé précédemment. Et voilà quoi. Et en plus, le principe, quand on commence à comment dire, disperser l'autorité sur le reste de la table, ça veut dire que quelque part, tout le monde est plus responsable. Là où avant, il y avait quelque part un meneur de jeu qui endossait là, 90%, bon, peut-être pas 90%, mais était considéré comme endossant 90% de la responsabilité, et du coup, pouvant quelque part canaliser les trucs, réexpliquer, remettre les pendules à l'heure, etc. Là, il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, sinon, ça va être plus long, il va y avoir peut-être des disputes ou des choses comme ça, ou peut-être que ça se réglera très bien, il y aura peut-être une heure de remise à niveau, une partie toute pourrie pour commencer, et après, une fois que les gens ont compris comment ça fonctionne, on remettra... voilà.
Alors, au niveau compétences, moi j'ai appelé ça dans un article que j'avais écrit des gestes. C'est mon jargon, quoi. L'idée est que, je sais que c'est pas la façon dont toi tu utilises gestes, mais peu importe. Ces gestes, ce sont des éléments de compétences, des éléments de choses qu'on sait faire et qu'on se transmet de joueur à joueur, de jeu à joueur, de meneur à joueur, etc., etc. Des gestes simples, vous avez pu en avoir un exemple dans un atelier qui a été organisé ici hier par Eugénie, ça va être par exemple présenter son personnage, apprendre à présenter son personnage, comment je peux faire. Ça, ce sont des compétences qui n'appartiennent pas à un jeu particulier, mais qu'on peut mettre en œuvre dans à peu près n'importe quel jeu en l'adaptant à la situation dans laquelle on est. Et ça, pour moi, c'est une notion très importante sur les compétences, c'est de savoir avoir un bloc de connaissances pratiques qu'on sait appliquer en jeu de rôle et ce bloc, l'adapter à la situation dans laquelle on est. Si je suis en train de jouer dans un jeu de SF, je ne vais pas présenter mon personnage de la même manière que dans un jeu Medfan pour être extrêmement basique sur l'idée. Voilà. Si je présente un méchant, je ne le présenterai probablement pas pareil que si je présente au contraire un personnage extrêmement sympathique. Voilà. À partir de là, moi j'ai fait un jeu dans lequel les compétences des joueurs sont extrêmement importantes parce qu'il n'y a pas de meneur de jeu, il n'y a personne sur qui se reposer en dehors des autres personnes présentes à la table. Et du coup, qu'est-ce que j'attends d'eux ? Ben, j'attends une capacité d'improvisation, d'abord, de création, de co-création de l'histoire au fur et à mesure qu'elle se déroule, en guidant et en aidant cette co-création à travers des mécaniques de jeu. Voilà. Ça marche plutôt pas mal et on arrive à la... Et d'écoute, bien sûr, oui, bien sûr, évidemment. Je parle de co-création, donc ça implique, comme Vivien disait, une écoute entre les participants et les participantes à notre table de jeu, évidemment. Et de l'entraide aussi, du soutien. Donc ça, c'est des compétences à développer. Autre compétence à développer, le jeu est axé sur des phases où on va tour à tour s'affronter, s'engueuler. C'est des histoires de famille, et notamment, il y a une scène un peu obligée dans le jeu qui est le repas de famille. Et comme vous pouvez imaginer, dans tous les repas de famille, quand on est dans une famille où les gens s'en veulent vis-à-vis de choses qui se sont passées auparavant, il y a des moments où on va s'engueuler et on peut s'engueuler très fort, et des moments où au contraire on va se retrouver. Et le jeu est conçu aussi pour que, après cette phase-là, on ait une phase dans laquelle on va essayer de se retrouver et dire des choses gentilles aux autres. Et je me suis rendu compte que s'engueuler, pour certaines personnes, c'était très facile. On rentre dans le personnage, on s'envoie des horreurs en se faisant des grands sourires pour se dire « oui, oui, c'est nos personnages qui sont en train de s'engueuler, c'est pas les joueurs. » Et donc ça marche super bien. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Au contraire, dire des choses gentilles aux autres pour essayer de les sortir de la situation dans laquelle ils sont embourbés, pour certaines personnes, c'est très facile. Pour d'autres personnes, c'est extrêmement difficile parce que ça dévoile un peu de soi. D'accord ? Moi, je ne pense pas à toi, Vivien. Tu t'en sors très bien. Voilà. Alors, à partir de là, comment on fait, quoi ? Bah, une des choses qu'on peut faire pour essayer de transmettre ce genre de choses, eh bah, j'en reviens à ce que je disais sur le développement de ses compétences en dehors d'un jeu, c'est-à-dire faire des entraînements, des ateliers éventuellement. Pour la partie qu'on a enregistrée, on a fait, avant d'enregistrer, une série de petits ateliers inspiré par Eugénie du blog Je ne suis pas MJ May qui était présente et qui nous a bien guidé là-dessus, dans laquelle on s'est entraîné à s'engueuler sur un truc qui n'avait rien à voir, puis derrière à se dire des choses gentilles, etc. Et du coup, ça a été beaucoup plus naturel ensuite. Voilà.
Potentiellement, le jeu de rôle et la pratique du jeu de rôle peut réclamer des compétences extrêmement diverses, tant du point de vue des joueurs que du MJ. Et la manière dont on aborde le jeu de rôle dépend tout autant des envies qu'on a que des compétences qu'on a et donc des capacités qu'on a à faire telle ou telle chose. Notamment, on va plus facilement vers les jeux très narratifs où le roleplay va être très important lorsqu'on a un peu de pratique théâtrale, qu'on est un peu sûr de soi dans l'expression, etc. Est-ce que pour vos jeux, ou en tout cas ce qui vous intéresse en jeu de rôle, vous, vous identifiez à nouveau des compétences particulières et des manières d'appeler ces compétences, de les mobiliser et de les nommer pour les utilisateurs de vos jeux, de manière à leur signaler que c'est vraiment à ça qu'on va jouer. Je peux reformuler ma question si vraiment elle est trop vague.
J'ai peut-être une réponse très rapide à ce sujet-là. Je vais revenir sur Apocalypse World. Et dans Apocalypse World, il y a les principes et l'agenda qui sont destinés aux meneurs de jeu, qui sont des phrases extrêmement précises en disant « faites ça ». Si vous faites ça dans le jeu, vous devriez avoir la bonne ambiance. On attend de vous que vous soyez capable de le faire. Ça veut aussi dire ça. D'ailleurs, il y a des conseils pour le faire. Et il y a beaucoup de jeux inspirés par ce système-là qui, aujourd'hui, proposent la même chose, mais côté joueur. Voilà, vous êtes joueur là. J'ai en tête un exemple d'un jeu qui s'appelle Legacy, dans lequel on va jouer des aventures... Non, pas Legacy, pardon, c'est Fellowship, dans lequel on va jouer des aventures qui ressemblent beaucoup au Seigneur des Anneaux. Chaque joueur choisit un membre d'un des peuples du jeu, et on vous dit, si vous jouez ce personnage-là, ou plutôt jouez ce personnage-là, si vous voulez jouer comme ça. Voilà.
Oui, sur ce qui est intéressant dans Apocalypse World, et on retrouve ça dans les, à une très faible mesure dans les jeux de John Grumph, c'est cette espèce d'emprunt à, on va dire, l'informatique, à la programmation. Un côté très... voilà, vous avez une procédure avec limite des chiffres. Petit 1, vous faites ça. Petit 2, vous faites ça. Après, il y a une série d'options, on va dire. Pour Apocalypse World, c'est ça. Vous avez une série, finalement, de ce qu'ils appellent des moves, enfin, des actions, quoi, des actions de MJ. Vous mettez un peu de chair dessus pour que ça ressemble quand même à de la fiction et pas juste à un truc mécanique. Mais en gros, voilà, un joueur rate un jet, vous prenez une option parmi les dans la liste, vous la mettez. Ensuite, vous lui demandez qu'est-ce que tu fais. Il vous dit un truc, vous prenez une autre option, vous lui mettez qu'est-ce que tu fais, etc. Et le programme qu'utilise John Grumph, je crois qu'il est originellement énoncé par Jérôme Larré, qui en gros, qu'est-ce qu'un jeu de rôle ? En gros, c'est niveau 0, vous faites un personnage. Niveau ensuite, petit 1, le meneur de jeu vous décrit une situation et vous demande qu'est-ce que vous faites. Petit 2, vous répondez au meneur de jeu. Petit 3, revenez au petit 1. Petit 1, le meneur de jeu vous décrit une situation, vous demande ce que vous faites, etc. Et vous faites ça en boucle jusqu'à la fin de la partie. Donc, il y a vraiment cette espèce d'emprunt, comme, alors le mot m'échappe, en tout cas en termes de, peut-être pas de pédagogie, mais en tout cas de un processus extrêmement clair, épuré, voilà, streamliné, on va dire, pour quelque part simplifier et quand même parler un peu de ce qui se passe concrètement dans une partie de jeu de rôle en débarrassant, on va dire, de toute la crème fictionnelle et de règles, quoi.
Ce que vous dites, c'est absolument fascinant et hyper intéressant. Je bois vos paroles, littéralement. Mais il y a peut-être quelque chose qu'il faut souligner aussi, c'est que les joueurs braconnent, c'est-à-dire qu'ils vont les règles... Voilà, ils vont les adapter, ils vont choisir d'ignorer certaines compétences, ils vont sauter des passages. Donc, il y a cette liberté du joueur qui est aussi importante à prendre en compte et à se rendre compte que les compétences qu'on attend du joueur et qu'il devrait mobiliser pour avoir l'expérience de jeu optimale que vous avez pensé pour eux, bah peut-être qu'ils ne vont pas l'appliquer. Et au sein même du groupe de joueurs, il va y avoir des négociations entre les différentes attentes des joueurs, les différentes compétences qu'ils se sentent en mesure de mobiliser à ce moment-là. Il y a quelque chose d'assez qui illustre très bien ce que je dis, c'est sur les forums pour trouver des partenaires de jeux de rôle dématérialisés. Il y a parfois des sortes de sélections qui ne disent pas leur nom, qui passent par justement des one-shots. Donc un meneur de jeu va décider de recruter une table de 5 personnes pour se lancer dans une campagne, et il va décider de leur faire passer un espèce de test implicite. Ne serait-ce que pour voir s'ils vont être ponctuels, s'ils vont savoir respecter les tours de parole, s'ils vont pouvoir, par exemple, bien présenter leur personnage. Donc, le joueur ne va pas savoir ce qu'on attend de lui, il ne sait même pas qu'il passe un test, même si, à force, les mécaniques de recrutement, ça commence à rentrer. Tout ça pour dire, en fait, que les compétences qu'on peut attendre d'un joueur, c'est flou, quoi.
Tu parlais de braconnage. Oui. Je tiens à préciser, la culture rôliste implique depuis des décennies la notion de bricolage.
C'est ça.
Les théories fordiennes ont essayé de dépasser le bricolage et en affirmant que le système était important, réaffirmer le fait que les règles encadraient le gameplay et que si vous vouliez une expérience de jeu un peu précise, il faudrait respecter les règles pour pouvoir en profiter. Bon, le bricolage est aussi ancien dans le jeu de rôle parce qu'on a une très longue habitude de système pourri. On a fonctionné pendant si longtemps avec des systèmes de règles qui n'avaient pratiquement aucune chance de produire ce qu'ils annonçaient que les joueurs, en tout cas les rôlistes qui ont un peu de bouteille, ont de très longue date pris l'habitude qu'il faudrait transgresser les règles pour que ça marche. À mon avis, l'exemple extrême, c'est les livres dont vous êtes le héros qui ne peuvent fonctionner que si on triche. Sinon, le jeu n'est pas exploitable. Bon. Il me semble que depuis 10-15 ans, en jeu de rôle, on s'éloigne un peu de ça et on commence à essayer de faire de plus en plus souvent des systèmes de jeu qui font vraiment ce qu'ils annoncent, de façon à ce que les joueurs aient vraiment l'expérience qu'on leur a vendue. Ce qui n'est pas rien non plus quand on parle de transmettre un jeu de rôle. À mes yeux, je fais régulièrement une analogie avec le fait qu'on vend des perceuses en fournissant le manuel « Merci ». Et on vend régulièrement des jeux de rôle en fournissant un manuel pas clair qui n'explique même pas ce que le jeu est censé faire. Donc on ne sait pas si on a acheté une perceuse, si c'est un marteau-piqueur rôliste, si ça ne sert qu'à casser des joueurs, ce genre de choses. C'est pas nécessairement indiqué sur la boîte. Mais peu à peu, on commence à enrichir cette culture et la faire évoluer pour commencer à se préoccuper de ces choses-là. Mais donc, si le bricolage et ce que tu appelles le braconnage, j'aime bien le terme d'ailleurs.
Je l'ai emprunté, il n'est pas de moi.
Il est bien quand même. est aussi important, c'est parce qu'on a longtemps fonctionné en mode dégradé, en fait. Avoir des règles claires sur des jeux très explicites sur leurs attentes commence à gommer cet effet-là. Enfin, c'est mon impression. Peut-être que...
Alors juste j'ajoute un truc assez rapide. Est-ce que aussi le fait d'avoir cette culture entre guillemets du bricolage au sein du jeu de rôle, elle n'est pas liée au fait que le jeu de rôle est né un peu de cette culture déjà du détournement de base, donc ça j'emprunte à David Perron que vous connaissez sans doute, notamment en fait à la culture du hacker, le fait de bidouiller le système, d'essayer de voir, de le transformer, de le tordre. Donc c'est peut-être même plus profond qu'une nécessité par rapport au système de jeu, mais plus une vraie culture qu'on développe à ce moment-là.
C'est même un peu constitutif, hein, puisque globalement, un jeu de rôle, c'est quand même une œuvre incomplète dans laquelle on va réussir à atteindre cette complétude à travers des parties. Et du coup, quand on organise une partie dans un jeu qui propose des choses très larges, c'est difficile de concevoir un système qui va aborder toutes les options. Donc il y a plusieurs possibilités pour se sortir de ce problème-là. On va soit restreindre l'expérience au maximum et mettre des outils très efficaces pour cette expérience-là, soit on va considérer qu'au contraire, il est bienvenu de la part de la table d'adapter sa manière de jouer à la situation qu'elle veut jouer. On retrouve ça dans énormément de scénarios proposés dans des jeux qui viennent un petit peu transformer l'expérience de jeu, parce que dans ce scénario-là, c'est spécifique. Parfois, les auteurs de scénarios introduisent de nouvelles règles à travers tout ça. Et il y a aussi l'approche, du coup, qui appartient à peu près à la même chose, mais encore plus libre, de l'OSR, de l'Old School Renaissance, dans laquelle on vous dit « ruling, not rules ». Donc on vous dit « il y a des règles, ok, mais ce qui est important, c'est comment vous allez les interpréter à la table au moment où il y en a besoin. Et peut-être que la fois d'après, vous les interpréterez pas pareil, mais ça va, pas de souci. » C'est votre culture, vous allez la construire au fur et à mesure.
Oui, je travaille maintenant assez souvent avec le système FATE qui commence à être un peu connu en France. Et le truc que je crois est le plus important avec FATE, c'est d'enseigner, de transmettre un sens de liberté aux joueurs, un sens de pouvoir régler, de pouvoir changer les règles, de pouvoir adapter les règles. En base, le système FATE est un système très simple, mais à la fois très profond. Et il faut avoir confiance qu'on peut faire n'importe quoi avec ce système qui est en base très simple et avec très peu de règles. Et c'est de transmettre aux joueurs pas seulement la connaissance des règles, mais le sens que tout ce qu'on peut décrire autour de la table peut être géré avec ce système très simple. Et pour moi, c'est pas uniquement les règles qu'il faut transmettre cette confiance, c'est aussi l'univers. J'aime beaucoup décrire les univers assez détaillés, assez grands, assez compliqués. Pas compliqués, pas forcément, mais avec un sens qu'il y a une grande profondeur au-dessous, à l'arrière de ce qu'on lit. Et je trouve que c'est très nécessaire de transmettre aux joueurs cette sensation de liberté, de pouvoir improviser avec pas seulement les règles, mais aussi les bases, les fondations de l'univers. Et une astuce que je me trouve très souvent en train d'utiliser maintenant dans les livres, c'est une liste très simple de paradigmes culturels ou technologiques. On a parlé déjà, qu'est-ce qu'un dragon peut faire? Qu'est-ce qu'un dragon peut souffler le feu ou voler, les trucs comme ça pour la fantasy? Quand il s'agit d'un univers de science-fiction, par exemple, je parle de mon jeu Mindjammer, où on a une civilisation hyper avancée dans l'an 17 000, par exemple, où tout est changé. Toutes les bases de l'expérience humaine a déjà changé. On a une longévité très profonde, une technologie qui est presque la magie parfois. Comment transmettre aux joueurs la sensation qu'ils peuvent improviser sur cette base technologique? Et j'utilise une liste normalement de 8 ou 10, de 10 points pour dire, si vous maîtrisez uniquement ces 10 petits points de la technologie et la civilisation de cet univers, vous pouvez très librement, très facilement improviser tout ce qu'il faut. Oui, et c'est ça quelque chose, c'est la liberté qu'il faut transmettre plus que plutôt d'autres choses.
Donc toi, tu passes manifestement par une liste synthétique. Comme la question du comment transmettre et un peu ce qui nous intéresse, qui nous reste un petit quart d'heure et que j'aimerais qu'on ait du temps pour les questions, chers camarades, comment est-ce que vous transmettez ce qui vous paraît essentiel à vos jeux? Est-ce que vous avez une méthodologie? Parce que, par exemple, Sarah a une méthodologie avec des bullet points et une priorisation très forte.
Pour ma part, je pense que, premièrement, essayer de formuler le texte du jeu pour essayer de faire passer l'idée de façon la plus claire et la plus simple possible, d'une part, et compléter ça systématiquement par des exemples, beaucoup d'exemples. C'est-à-dire que dans le mauvais rêve, j'ai à la description des règles de courts exemples que j'essaye de multiplier, et à la fin du bouquin, carrément un exemple de partie, et exemple de partie qu'on a repris en vidéo derrière, etc. Donc moi, c'est plus par la répétition et l'explicitation au maximum de ce que j'attends. On m'a d'ailleurs certains lecteurs du jeu m'ont reproché d'être un peu trop pédagogique dans la manière de l'approcher, parce que j'étais extrêmement détaillé, quoi. Voilà. Mais j'ai préféré faire comme ça.
Vivien ?
Alors moi, j'ai plusieurs méthodes, on va dire. En général, l'idée, c'était de commencer par un texte un peu d'abord juste de mise en état d'esprit, on va dire. C'est quelque chose que je trouve qu'on perd peut-être parfois quand on vise trop la transmission, on va dire, d'une pratique. On perd la transmission d'un rêve, pour exagérer un petit peu, mais quelque part, c'est quelque chose que j'ai retrouvé en relisant des vieux jeux, notamment français, type Rêve de Dragon ou Hurlement, où il y a tout au départ une espèce d'invitation au rêve, au voyage, des choses comme ça, et c'est quelque chose qui, je pense, accompagne ensuite le lecteur dans sa lecture, bêtement, et ensuite aussi dans le fait qu'il va devoir proposer, souvent, donc c'est un meneur de jeu dans ces jeux-là, qu'il va devoir proposer à des joueurs, donc les inviter finalement à rejoindre cette espèce de rêve partagé et essayer de leur insuffler un petit peu de ça. Donc il y a aussi quelque part une espèce d'embarquement un peu, pas tout de suite commencer par voilà, qu'est-ce que le jeu de rôle ? Alors il y a un meneur de jeu, c'est toi, et ensuite il y a des joueurs, vous allez avoir des dés, alors des dés à 10 faces, des dés à machin. Non, commencez d'abord par voilà, je vous invite à un voyage, alors quitte à faire dans le grandiloquent et à la limite, on va dire quelque part mentir un petit peu en un sens, c'est-à-dire que faire le forain quoi, en un sens.
Tu peux pas compter sans mentir.
Voilà, c'est ça, c'est l'idée. Donc, je sais plus, dans Libreté, je parle directement de faire revivre des morts, enfin des choses comme ça, quoi. Et clairement, en empruntant finalement une espèce de persona qui n'est pas la mienne en réalité, je vous rassure. Et voilà, il y a cet aspect-là. Et ensuite, bon, il y a des trucs, des astuces d'écriture. Ne serait-ce que, est-ce que je vous vois ? Est-ce que je tutoie le lecteur ? Comment, à qui je m'adresse ? Est-ce que je m'adresse au meneur de jeu ? Est-ce que je m'adresse à tous les joueurs ? Si je m'adresse à eux, comment je les appelle ? Est-ce que je vais les appeler eux ou elles ? D'ailleurs, puisqu'après tout, maintenant, il commence à y avoir justement des mouvements d'écriture inclusive qui consistent à dire elles pour parler, alors peut-être des joueuses du coup, ou de elles pour parler de la meneuse avec les joueurs, enfin ce genre de choses. Donc ça peut être des astuces de jeu sur la grammaire elle-même qui ont un intérêt, on va dire, politique, mais aussi un intérêt finalement didactique. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Didactique, quoi. Ça simplifie la lecture plutôt que de il, ou ce genre de choses, ou de vous, à qui on s'adresse quand on dit vous. Est-ce qu'on s'adresse juste au meneur de jeu, ou est-ce qu'on s'adresse au meneur de jeu plus au joueur ? Enfin, ce genre de choses, il y a des choix là-dessus. Voilà. Comme Julien, j'ai fait énormément d'exemples. J'ai choisi d'axer le truc sur des exemples. Pour rendre la chose plus agréable, j'ai choisi de prendre un certain nombre de personnages et d'imaginer une campagne qu'il vivrait, c'est-à-dire que chaque exemple ensuite serait pris, j'ai dû faire une chronologie parce que j'y comprenais plus rien, donc j'ai pris un certain nombre de personnages et qui vivent dans un même endroit et à qui il arrive une succession de choses, donc les éléments, les exemples se répondent les uns aux autres avec des zones de non-dit, en me disant qu'au pire les gens combleraient et que ça, peut-être que ça jouerait sur l'effet un petit peu de mystère, on va dire, ou d'envie de savoir, ou de créer sa propre aventure. Voilà, ça c'est des astuces que j'ai utilisées essentiellement, plus le reste basé sur Apocalypse World, les options, les machins, voilà.
Puisque tu parles de campagne et de la scénarisation qui va avec le jeu de rôle, quels sont vos points de vue sur le bon vieux scénario d'initiation et sa fonction pédagogique dans beaucoup des jeux de rôle ? Sous-entendu, un scénario d'initiation bien fait devrait vous transmettre l'univers auquel vous commencez à jouer, les règles du jeu et les enjeux ludiques particuliers de ce jeu.
Oui, c'est une le kit d'initiation d'un jeu de rôle. C'est pour moi, c'est une distillation de toutes les techniques qu'il faut pour écrire un jeu de rôle en base. Oui, vous avez une vingtaine, une trentaine, peut-être au plus une cinquantaine de pages de transmettre tout ce qu'il faut. Et c'est un terme que je veux lancer dans le débat un peu maintenant, c'est le mot fractal. Oui, quand on s'approche à des règles de jeu de rôle et à l'univers de jeu de rôle, le principe fractal est quelque chose qui est très important à considérer. C'est quoi le fractal, le design fractal ? C'est quelque chose qu'on peut transmettre dans très peu de mots, un concept très concentré, et après on peut commencer à la désemballer, on peut dire en français, soi-même. Oui, c'est évident, les règles par lesquelles ce concept a été emballé d'abord, on désemballe soi-même en ajoutant sa propre créativité. Et quand on crée un kit d'initiation, pour moi c'est très important de trouver les éléments dans les règles et l'univers et le gameplay aussi, ce qu'on fait dans le jeu, qui sont fractaux, on dit fractaux.
C'est pas très élégant, mais c'est ça.
Pour que les joueurs, les meneurs puissent le désemballer soi-même. Et c'est quelque chose que c'est une question de distillation pour moi.
Bon, du coup, ça tombe à pic. Par rapport, le dire en peu de mots peut aussi être montré en peu de mots. Donc vous allez me dire ah, arrête avec tes vidéos, patati patata, mais bon, désolé, hein, voilà, fallait pas m'inviter. C'est que pour aussi montrer un univers, on peut aussi se servir du support vidéo. C'est ce que fait notamment Maillard, avec la série Aventure, dont il s'est désengagé maintenant du processus de masterisation qu'il a laissé à un youtubeur avec aussi plus de d'abonnés peut-être. Et là, la présentation du jeu de rôle est vue comme un spectacle qui est fait sous format sériel adapté à la plateforme YouTube. Donc c'est aussi intéressant de penser dans ces termes-là. Et donc l'initiation, voilà pourquoi est-ce que j'en parle, c'est que ce genre de vidéos peuvent aussi être une sorte d'initiation, ça peut être une porte d'entrée dans la pratique, et voir d'autres personnes jouer, mettre en système et l'introduire petit à petit, faire en sorte que les spectateurs accrochent au personnage et à l'univers, ça peut être, je pense, vu comme aussi une initiation.
Julien, sur l'initiation peut-être ?
Écoute, j'ai déjà beaucoup parlé. Sur l'initiation, pas grand-chose à rajouter. Finalement, est-ce qu'on peut vraiment faire un salon d'initiation comme on peut faire un tutoriel en jeu vidéo ? Oui, c'est possible. Oui, ça se fait. Il y avait un cas typique qui était le premier scénario du livre des 5 anneaux qui proposait un tournoi dans lequel on allait, à travers les épreuves du tournoi, systématiquement tester les phénomènes de règles, apprendre un peu l'étiquette de l'univers, etc. etc. Le souci, c'est que quand on est attaché à la problématique d'initiation, malheureusement, comme le soulignait Vivien, on peut facilement oublier que, oui, ok, on explique, mais il faut aussi intéresser, il faut aussi accrocher, il faut aussi donner envie. Et donner envie, parfois, ça peut passer, au contraire, par des scénarios qui sont difficiles d'accès, parce qu'il y a un plaisir à démêler une situation complexe. Dans beaucoup de jeux vidéo, on aime aller passer le tutoriel très vite pour découvrir directement en situation comment ça se passe, sans avoir l'impression que les créateurs et les auteurs nous prennent pour des imbéciles. Donc, le plaisir de la difficulté existe aussi. Et il ne faut pas l'oublier dans l'initiation en jeu de rôle. Voilà.
C'est-à-dire, on n'est pas obligé de faire des tutoriels chiants. Hein. Il y a les moyens de les faire bien. Hein. Il me semble qu'on atteint la fin. Il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il vous intéresserait de poser des questions ? Auquel cas, je nous sens capable de faire circuler les micros.
Bonjour. Si vous me permettez un petit reproche, je vous ai trouvé en fait super mécaniste dans tout ça. Et j'ai le sentiment qu'on a un tout petit peu perdu l'idée que le jeu de rôle, c'est quelque chose de social, c'est quelque chose qu'on s'approprie, c'est quelque chose qui se transmet socialement. Et peut-être que on modifie les règles parce que on aime un univers, mais l'attente qu'on a du fonctionnement du jeu ou la façon dont on le pratique évolue, et pas forcément parce qu'elles sont mal foutues. Et au final, ça reste raconter une histoire à plusieurs. Et j'ai un peu l'impression qu'on a beaucoup parlé de systèmes et de mécanismes et de comment faire que les gens jouent bien à votre jeu. Mais les gens jouent bien à votre jeu s'ils s'amusent en jouant à votre jeu. Pas forcément de la façon dont vous l'avez imaginé.
Et personnellement, c'est exactement pourquoi que j'ai souligné l'importance de la liberté. Et la confiance, donner la confiance aux joueurs de approprier le jeu entièrement. C'est pas notre jeu. Il n'y a pas de manière correcte de jouer nos jeux. Nous proposons un univers, un système de règles, en disant que nous l'avons joué comme ça. Mais c'est à vous de faire le vôtre en principe. Et vous avez tout à fait raison que c'est la chose la plus importante, c'est ne pas transmettre la méthode correcte de jouer, mais juste notre impression, comment ça peut se jouer, et c'est à vous de décider. Oui.
Oui. Un exercice qui est vraiment intéressant, qui est difficile à vivre, mais qui est vraiment passionnant, c'est quand on a écrit un jeu, c'est d'écouter finalement une vidéo, du coup, de personnes qui ont joué à ce jeu-là sans jamais avoir joué avec vous, parce que globalement, on est quand même dans un petit milieu et quelque part, un nouveau jeu, bon, bah, on le fait tester aux gens autour de soi, et souvent ensuite, ceux qui deviennent meneurs de jeu, au moins, y compris en vidéo pour faire la promotion du jeu, sont des gens avec lesquels vous avez déjà testé le jeu. Mais vraiment, avec quelqu'un qui a lu le jeu tel qu'il a été écrit, tel que lui l'a compris, comme on disait, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des règles qui sautent, d'autres qui sont comprises d'une autre façon, et on voit que les gens s'amusent quand même. Alors on est pétri de trouille, on va dire, pendant tout le truc en disant mon Dieu, il n'a pas respecté la règle il ne peut pas avoir plus de 5 jetons, c'est pas possible, et en fait ça marche quand même. Et voilà, donc quelque part c'est vrai qu'à un moment ou un autre, de toute façon, le lâcher prise de l'auteur est indispensable. Et c'est absolument, oui, au final on apprend à trouver ça absolument génial que les gens se réapproprient le jeu et s'amusent avec, quoi. Bon, évidemment, si après ils font des trucs nazis ou je sais pas avec, ça me gênera, mais tant que ça reste dans une limite acceptable, il n'y a pas de souci, au contraire, quoi.
Ouais, j'allais ajouter que en tant qu'auteur, j'essaie de transmettre au mieux la vision que j'ai de la chose, mais il est évidemment bien entendu que ma vision n'est pas nécessairement la meilleure. Moi, il m'est déjà arrivé de voir des règles que j'ai mis en place, des mécaniques que j'ai mis en place, bien mieux utilisées par les gens avec qui je jouais que ce que moi j'avais imaginé. Et c'est assez génial d'ailleurs d'être confronté à une problématique de ce type-là, quoi. Ça vous fait évoluer sur la façon dont vous pensez votre jeu. Voilà, il y a l'objectif qu'on va se fixer, la façon dont on réfléchit quand on essaye de transmettre. Et effectivement, dans toute transmission, il y a une phase d'appropriation. Et on peut considérer le rôle de l'auteur comme étant celui de réduire la distance entre le jeu que vous avez écrit et le jeu tel qu'il est pratiqué. C'est une vision des choses. On peut aussi décider de se considérer plus comme un fabricant d'outils, un designer de méthodes de jeu. Et a priori, si vous appliquez cette méthode, ça devrait donner cet aspect-là. Mais vous pouvez très bien essayer de l'utiliser autrement, le hacker, faire ce que vous voulez avec. On verra bien ce que ça donne. La seule chose que je dirais, c'est que je ne peux pas vous garantir que ça donnera ce que j'ai prévu. Ce sera peut-être mieux, ce sera peut-être moins bien. On verra.
Oui, d'une certaine manière, c'est comme pour la machine à laver. Si vous n'utilisez pas le jeu de rôle de manière cohérente avec le manuel, vous n'êtes plus sous garantie. Sachez-le, quoi. D'autres questions ? Sachant que n'hésitez pas à agiter les bras beaucoup parce que j'ai des spots dans la gueule et je ne vous vois pas. Il y a donc un bras qui s'agite là-bas. Très bien.
Dans les nouvelles feuilles de perso, je n'ai pas vu quelque chose qu'il y avait chez notre ancêtre à tous, Donjons et Dragons, c'est-à-dire l'alignement moral, c'est les choix intérieurs du personnage. Et qui, pourtant, ça me paraissait très utile pour permettre de structurer son personnage et de choisir soit les actions dans un système qui ne soit pas un système automatique.
Ça dépend vraiment du système maintenant. Et moi, j'ai beaucoup parlé du système Fate, par exemple, aujourd'hui. Mm-hmm. Et au lieu d'un simple alignement qui est très réductif dans un mot ou deux mots, par exemple, le système Fate utilise une gamme de phrases qui décrivent les croyances et les attitudes et les pensées de personnages, quoi. Et c'est très fort, très, très puissant. Alors, oui, ça dépend du système. Il y a les systèmes qui n'ont pas les guides comme ça, mais il y a les systèmes maintenant qui existent, qui donnent beaucoup plus de profondeur.
Ça me paraît très intéressant.
Oui, c'est vraiment génial, oui.
Si vous avez d'autres questions à nous poser, sachant qu'il faut qu'on finisse maintenant.
Allô ?
Oui.
Oui, alors, j'avais une question, je voulais revenir...
Je vais la refaire, mais plus fort. Si vous avez d'autres questions à nous poser, désormais, à partir de cet instant où il faut qu'on finisse, vous pourrez nous trouver aisément, tous au pôle ludique, c'est-à-dire à la cave, en fait. On y joue, on y mène. Oui. Pourquoi est-ce que ta montre me dit qu'il est midi ? Ok, on peut prendre 5 minutes. Il y avait donc une question.
Donc, pardon.
Vous êtes sûr? On en reparle encore un peu? Très bien.
On est en bas.
Nos jeux et nous-mêmes seront plus bas. Vous avez le droit de venir nous voir, ça nous fera plaisir.